Je vais essayer de regrouper plusieurs choses ce matin. Pour ceux qui étaient au week-end d'église, si vous n'y étiez pas, ce n'est pas grave, hein, vous allez suivre aussi, mais j'ai essayé de communiquer quelques outils qu'on pouvait utiliser pour, quand nous-mêmes on lit nos Bibles, les comprendre nous-mêmes et puis se nourrir nous-mêmes, hein, parce que c'est quand même le but. Pas qu'on devienne, qu'on parte vivre notre foi tout seul et voir personne, mais en même temps, on devrait être capable de se nourrir tous les jours et aussi de nourrir les autres. Hein. On a tendance à oublier que quand le christianisme a commencé, déjà Jésus, mais même les Paul, etc., ils arrivaient quelque part où les gens avaient aucune notion du christianisme, donc pas de culture chrétienne, ça n'existait pas, même pas le Nouveau Testament, rien. Ils restaient là quelques mois, ils repartaient et ils laissaient des gens qui étaient capables de gérer une église. Avec des erreurs, il fallait revenir, etc. Mais je ne sais pas si ça vous donne une idée par rapport à nos modèles à nous, où ça fait 60 ans qu'on fréquente la même église, qu'on écoute des messages et qu'il faut toujours des professionnels qui nous disent comment penser, quoi faire, etc. Hein ? Donc c'était une des raisons pour lesquelles on a abordé quelques points dans ce week-end sur quelques outils pour justement, si je dois me nourrir tout seul avec le texte biblique, hein, pas me retrouver dans un contresens énorme ou faire dire le contraire à la Bible de ce qu'elle a dit. Et puis, en même temps, vous savez qu'on parle un petit peu souvent, régulièrement, ces dimanches, on a un projet, enfin, quand je dis un projet, c'est pas parce que ça va peut-être se faire, c'est sûr, mais un projet parce que c'est pas encore fait, d'avoir ce parcours Alpha Life qui va débuter au mois d'août. Et plus on avance dans les réunions de préparation, plus je suis touché par la pertinence du contenu, hein. À l'époque où ces cours étaient à la mode, il y a 20 ou 25 ans, je n'étais pas du tout intéressé parce que je n'ai jamais aimé les trucs tout près, moi. Je n'ai jamais mangé de lasagne congelée, j'aime pas les trucs préfabriqués, j'aime bien quand on fabrique nous-mêmes. Hein. Donc tout le monde me disait que c'était super et comme je ne suis pas intelligent, ben, je n'écoutais pas les gens. Mais finalement, par une relation, hein, un contact de Marc qui est devenu un ami, on s'est mis à l'écoute de ça. Et puis, derrière l'interface de l'organisation, j'ai été très touché par la pertinence du contenu. Alors, comment je vais lier ces deux choses-là ? C'est le fait qu'en fait, en faisant les soirées de préparation, puisqu'on fait des soirées de préparation avec ceux qui vont un peu gérer ce parcours, j'ai été très touché de retrouver dans le contenu spirituel de cette façon de communiquer sa foi, des principes qui étaient tirés de la communication de Jésus dans les évangiles. Et ça, c'est un des principes, un des points qu'on a vu pendant le week-end d'église. Hein. On a vu comment la Bible est soumise à la Bible, comment le caractère de Dieu définit notre compréhension des Écritures. Le dernier point que j'avais développé, c'était le fait que dans un récit historique de la Bible, donc pas un enseignement, un récit hein, qui nous raconte, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, comme le livre des Actes, comme la Genèse, et comme les évangiles qui sont des récits historiques, qui contiennent aussi des enseignements, mais on peut sortir des principes spirituels pour les réappliquer de nos jours. Hein. Une situation qui s'est passée, elle ne reviendra jamais la même, parce que même si elle a l'air d'être la même, ce n'est pas la même. Puisque c'est un autre moment et c'est pas la même. Donc on ne doit jamais prendre une situation dans la Bible et dire « Oh, ça ressemble avec ma situation, je l'applique à cette situation. » Et je ne vais pas tout refaire, mais on a vu que dans des situations identiques, une fois un homme de Dieu fait d'une façon, l'autre fait le contraire et les deux ont raison. Parce que derrière les deux actions différentes, il y a par contre un même principe spirituel. Donc le principe spirituel, on va dire, c'est la matière active qui est contenu dans une situation, et on doit apprendre à l'extraire, et puis après, on peut la réinjecter dans n'importe quelle autre situation pour laquelle c'est adapté. Et là, donc, c'est un petit peu ça. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il y a une façon de communiquer les évangiles, c'est le parcours Alpha Life, pas du tout. Vous me connaissez assez pour savoir que ce n'est pas ça. Mais par contre, dans cet outil qu'on va utiliser, et je pense qu'on a été conduit par Dieu pour qu'on l'utilise maintenant, c'est le moment pour nous, il y a des principes spirituels qui sont importants et qui sont dans la façon dont Jésus communiquait et je trouve que c'est valable pour tout le monde que vous participiez ou pas à ce parcours parce que nous avons tous des dons différents Hein. Donc tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas appelé à enseigner, tout le monde n'est pas, etc., etc. Mais nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à être témoins de la vie qui est en nous. Donc ça, il n'y a pas des spécialistes ou des professionnels. Un témoin, c'est quelqu'un qui était là quand ça s'est passé. Donc, si vous y étiez un jour, c'est-à-dire que si un jour vous avez rencontré Christ, vous êtes un témoin de cette rencontre. Hein. Et là-dedans, encore une fois, les théologiens ne sont pas meilleurs que les autres, souvent ils sont bien moins bons. Les gens qui ont beaucoup étudié ne sont pas meilleurs que les autres. Hein. Si on demandait à Marc, qu'est-ce que c'est un bon témoin sur un accident ou sur un événement pour la police, ben, c'est celui qui a regardé, qui raconte correctement. Sachant que chacun raconte sa façon de voir, mais il raconte ce qu'il a vu. Hein. Et puis, j'aime ça aussi parce que ça me rappelle la période de ma vie où ma théologie tenait en deux phrases, quand je suis venu à la foi. J'ai rencontré le Seigneur et toi. Je ne savais rien d'autre. Si, il y avait aussi Jésus revient. Voilà. Hein. Une phrase de plus. J'ai rencontré le Seigneur et toi et Jésus revient. Voilà. On savait que ça, et les gens se convertissaient tous les jours, parce que Dieu le faisait, hein, c'est pas nous, bien sûr. Mais c'est quand même ça, être un témoin. Alors, dans le matériel Alpha Life, si vous le regardez, c'est résumé en trois choses essentielles. Hein. C'est un repas, une présentation d'un sujet, et des questions. Et puis, dans la question, il faudrait un petit peu, on va voir, sous les questions, c'est pas juste des questions, c'est des questions pour créer un lieu sécurisé dans lequel les gens peuvent s'exprimer. Et j'ai été frappé en réfléchissant là-dessus de voir que c'est la façon que Jésus a utilisée. J'ai pas relu les quatre évangiles en entier, mais j'ai survolé un petit peu. J'ai arrêté au bout d'un moment. Le nombre de passages, d'histoires, de récits, d'enseignements qui se passent à table dans les évangiles, on le sait tous, hein, mais quand on y prête intentionnellement attention, c'est impressionnant. L'essentiel des discours de Jésus, des histoires, se passe à table. C'est pas par hasard. On sait que dans une famille, le papa, la maman, les enfants, hein, les repas sont très très importants. C'est pour ça que lorsque, à cause du monde actuel ou de la culture, etc., il n'y a pas de repas de famille pris ensemble, c'est un véritable manque. Hein. On peut faire autrement, mais parce que c'est dans les repas que, ben voilà, il y a éventuellement ça peut être un peu élargi. Hein. Il y a aussi les grands-parents, il y a plusieurs générations, on est autour de la table, et dans un repas, ben, il se passe des choses qui ne se passeraient pas si on se mettait les mêmes personnes autour d'une table. Et puis qu'on se dise, on va passer une heure ensemble. On pourrait parler de quoi ? Quelqu'un a un sujet ? Enfin, hein, vendredi soir, on avait la dernière rencontre avant l'été, nos rencontres à Bienne. On s'est retrouvés, bon, ça devait être un pique-nique, mais il pleuvait, on était sur le balcon. On a commencé de discuter autour de la table à 7h30, on est parti, c'était 2h, Mathieu, à peu près, hein, comme ça. Parce qu'on se dit, bon, il faut qu'on y aille, mais on aurait pu continuer. Hein. Voilà, autour de la table, ça vient tout seul. Quoi. Alors, donc, j'avais noté plein de versets, je n'ai pas tous les donner, mais quelques-uns comme ça. Matthieu 26, 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ? Ça, c'est ce qu'on a célébré avant, et je trouvais que ça allait bien, parce que on oublie quand on prend ce qu'on appelle la Sainte Cène, la communion, ce que vous voulez. C'était un repas, et puis les Juifs ne sont pas des gens tristes. Hein. C'était un repas festif, sérieux, mais pas avec des têtes d'enterrement, et puis une musique triste, et puis on regarde nos pieds, on ferme les yeux. Non, ils mangeaient ensemble, alors il y avait un rituel, il y avait des psaumes, etc. Il y avait du contenu spirituel. Mais c'était un vrai repas. On sortait de là, on n'avait plus faim. Hein. On arrivait, on n'avait pas mangé, on partait, on avait mangé. C'était pas juste le petit, nous on a gardé le symbole juste. Donc même ça, c'était un repas. Hein. Et pourquoi ? Ben, Jésus a associé son œuvre, le fait de verser son sang, de donner son corps pour nous, à un repas. Parce que c'est quand même cette idée que tant qu'il y aura des humains, ils vont manger, plus ou moins, et puis il y aura des repas. Hein. Et il a associé ces deux choses-là. Et puis après, bon, les références, on oublie. Mais sans arrêt, il y a des repas, et y compris après sa résurrection, j'ai juste mentionné celui-là, hein, lorsque les pèlerins, les fameux sur le chemin d'Emmaüs, là, on ne sait pas leur nom, ils leur parlent, mais ils entendent, ça brûle un peu dedans, mais ils ne comprennent pas. Et c'est quand ils s'assoient autour de la table que leurs yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose de particulier autour de la table. Et là, ils reconnaissent que c'est Jésus. Donc, je ne vais pas développer plus ce point-là. Ben, lisez vos évangiles, c'est un but de les relire aussi. Et vous verrez le nombre de choses qui se passent à table. Okay. Et donc, dans le programme Alpha Life, le parcours, ce n'est pas un programme qu'on va faire, hein, ça commence toujours par un repas sympa. Puis je vois dans les soirées de préparation qu'on fait, ben justement pour s'entraîner, on commence toujours par un repas. Et puis honnêtement, c'est agréable. Hein voilà. Ensuite, après le repas, il y a un moment où il y a un sujet qui est présenté. Et ça, ben, on ne peut pas l'enlever. Hein. On ne peut pas dire Jésus, juste il mangeait avec les gens puis il était cool avec eux. Jésus enseignait. Hein. Alors, on n'utilise pas le mot enseigner dans le parcours Alpha Life parce que c'est un mot qui a des connotations religieuses ou qui peut être un peu pénible. Mais l'idée, c'est quand même là, c'est que la vérité, si on ne la présente pas, on ne peut pas la savoir. Hein. Alors, il faut la présenter de façon pertinente, courte, précise, etc. etc. Mais il faut, à un moment, que les choses soient dites. Hein. Si on n'entend pas les choses, on ne peut pas les savoir, et si on ne les sait pas, elles ne peuvent pas nous toucher. Donc, il ne faut jamais opposer les différents éléments. On est appelé à mettre ensemble les choses pour construire. Hein. Et puis, c'est vrai que nous, on aime bien opposer les choses. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne parle jamais. Mon témoignage, c'est d'être. » Évidemment qu'il faut être, parce que si on n'est pas... Hein, mais si on ne parle pas... Ben, juste être, les gens vont dire ouais, ce mec-là, il est sympa, cette fille, elle est gentille. Puis voilà, puis vous allez passer toute votre vie, ils vont penser que vous êtes sympa, et puis un jour, ils vont mourir, et vous aussi, et ils ne savent rien. Donc, oui, d'abord, il faut qu'il y ait un relationnel avec les gens, parce que s'il n'y a pas ce repas, s'il n'y a pas ce temps de communion ensemble, et qu'on arrive et puis qu'on dit aux gens, tu sais, je vais te dire la vérité. Ben, c'est vrai. Mais il y a aussi un moment où il faut parler. Et Dieu nous a créés à son image, Dieu est la parole, et il ne s'est pas contenté pour nous de nous donner les couchers de soleil et les saisons et les oiseaux qui passent et les notes de musique, chose que j'adore, hein, mais il nous a aussi parlé. Voilà, je vous dis, je suis, je fais, et Jésus parle. Hein. Donc nous, on doit aussi, quand c'est le moment, ajouter... à la relation qui vient dans un repas, l'exposé de la vérité. Mais attention, ce n'est pas un sermon, dans le genre, quand on dit sermon en général, moralisateur, vous n'êtes pas bien, il faut faire comme ci, faire comme ça. Non, c'est un exposé de quelque chose qui est vrai. Hein. Le but, ce n'est même pas de convaincre, c'est juste d'exposer que c'est. Voilà. On dit ce qui est. Hein. Et ça, c'est quelque chose que l'homme peut faire parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Une des premières responsabilités qui a été donnée aux humains, c'était de nommer les choses. Donne un nom aux animaux. Hein. C'est une façon probablement imagée d'expliquer autre chose. Mais donner un nom aux choses. Et parce que nous avons, même si elle est un peu abîmée, limitée, mais quand même une certaine intelligence, et la capacité de nommer les choses et de les dire. Hein. Et donc ça doit être fait. Et je ne vais pas non plus développer ça, mais on voit que Jésus a pratiqué ça, alors à table, je l'ai dit, mais sur la montagne, sur un bateau, en marchant, en petit groupe, devant des foules, il a parlé, il a expliqué, il a exposé. Et d'ailleurs, les gens disaient, c'est bizarre, quand il parle, on sent qu'il y a une autorité. Ce n'est pas comme nos chefs religieux là, qui nous font des exposés. Ils peuvent nous dire dans un livre de l'Ancien Testament combien il y a de lettres, quel est le livre numéro, combien il y en a, qu'est-ce que ça veut dire, ça a été écrit. Et on s'en moque un peu, ça ne nous touche pas. Il parle avec autorité. Et paradoxalement, l'autorité de Jésus, bien sûr, venait du fait que tout ce qu'il disait était vrai, mais venait aussi du fait que son boulot à lui, ce n'était pas de persuader les gens. C'était juste de dire ce qu'il avait à dire. Hein. Et ça nous amène au point d'après, et qui est celui que je veux surtout développer ce matin, mais je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas. C'est le fait que souvent dans notre communication de notre foi, ou dans notre rôle de témoin, ou pour certains d'évangélistes, si on pense qu'on veut faire ça, on se trompe et on pense que notre but c'est de convaincre ou de persuader, ou de montrer aux gens qu'ils ont tort, ou de leur expliquer qu'on a raison. Et Jésus n'a jamais fait ça. Il explique la vérité. Et puis il pose des questions. Et puis il s'en va, débrouillez-vous. Hein? Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand on voit comment justement, et ce n'est pas une critique à tout ce qui est fait pour communiquer l'évangile, bien ou maladroit, c'est mieux que rien. Donc, avant de critiquer quelque chose, que je me demande ce que je fais moi. Hein? Donc, que ça soit bien clair. Mais quand même, et puis moi, j'ai passé une grande partie de ma vie dans ce domaine-là, à toujours chercher d'autres façons de faire. Et en réfléchissant, je pense que souvent, en fait, j'ai été à l'envers parce que je me disais, j'avais l'impression qu'il fallait tellement rendre facile, hein, enlever les obstacles, créer l'ambiance, faire pour que les gens y arrivent, quoi. Et Jésus, il fait le contraire. On dirait qu'il rend les choses plus compliquées, hein. Et il y a plein d'exemples, on va en prendre quelques-uns après, hein. Quand cet homme vient, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Attends, moi, j'aurais rêvé qu'on me pose cette question. Je l'aurais pris gentiment, j'aurais commencé par lui expliquer. Et qu'est-ce que fait Jésus? Pourquoi tu m'appelles bon? Il y a de bon que Dieu seul. C'est comme si, au lieu d'essayer de, mais oui, tiens, une bonne démarche, tu veux connaître Dieu, viens avec moi. Il met une claque là, paf, paf. Hein? Et puis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est une vraie adhésion de cœur à la vérité. Moins que ça, ça ne l'intéresse pas. Dieu n'est pas intéressé par les statistiques, par le nombre, par le chiffre, par le résultat. Moi, j'ai connu des missionnaires traumatisés parce qu'ils devaient envoyer tous les mois une lettre de nouvelles et puis il fallait des chiffres. Combien de baptêmes? Combien de conversions? Alors, ils faisaient des baptêmes. C'était une honte, hein? Quand tu as quelqu'un dans la rue, bonjour, oui. Bon, tu crois en Jésus? Non. Tu voudrais croire? Oui. Prie après moi. Prie. Ok, je prie. Seigneur, je te reçois comme un sauveur. Parfait. Tu vas te baptiser, c'est quoi? Bon, je te trempe dans l'eau et puis après, il y a un repas. Super, je viens. Paf. Voilà. Ouais, ça en fait un. Alors, il y a des gens qui se sont convertis comme ça, attention. Hein, mais c'est quand même pas ça, quoi. Hein. Dieu peut toucher avec n'importe quoi. Les ânes se parlent, pas les ânes. Mais les ânes se parlent des fois, et puis etc. Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est toujours que ce soit profond, que ce soit vrai et que ce soit voulu. Parce qu'il est vérité et il est amour. Donc vérité, pas de compromis. Et l'amour, il faut que ce soit partagé et que ce soit désiré. Il n'y a pas de manipulation dans l'amour. Hein. Et nous, on est tellement sous cette espèce de poids comme si c'était notre responsabilité que le monde ne passe pas à l'éternité sans Dieu, qu'on est prêt à tout pour que les arracher contre leur gré à leur soi-disant ignorance ou à l'enfer ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas notre rôle du tout. Ce n'est pas notre responsabilité. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, on est un mauvais témoin. Parce qu'on veut convaincre, on veut persuader, on veut prouver qu'on a raison. J'ai déjà dit, mais dans mes jeunes années où j'étudiais l'apologétique, j'étais devenu assez bon en apologétique, en tout cas philosophique. Et puis je me faisais plaisir parce que je pouvais mettre tout le monde en boîte. C'était super. Quand les gens me quittaient, ils savaient qu'ils n'avaient rien compris et que j'avais raison. Waouh, quel résultat pour le royaume de Dieu. Hein? Mais au moins, je leur avais cloué le bec. Vous imaginez si Jésus avait voulu clouer le bec de ses interlocuteurs, la facilité qu'il aurait eue à leur montrer qu'ils avaient tort, qu'ils savaient mieux que lui, qu'il avait... Il sait tout. Il peut tout. Hein? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur posait des questions. Hein? Les disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est perturbé, hein? Il est en prison, il a misé toute sa vie pour un truc spécial. Ça se passe mal, il se retrouve en prison, et là, en prison, il ne sait plus. Même moi qui l'ai annoncé, il ne ressemble pas à ce que je croyais, quoi, parce que Jésus, il ne rentrait pas dans la case qu'on attendait. Et là, Jean est pris de doute. Il dit, mais et si je m'étais trompé? Et je suis en prison, et on va sûrement me couper la tête, et peut-être pour rien. Il envoie ses disciples vers Jésus. Est-ce que tu es celui qui doit venir? Franchement, moi... Attends, mon cousin Jean, là, il est en prison. Il est pas... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une lettre avec... Mais bien sûr, mais oui, c'est moi, je t'assure. Il répond, bizarre la réponse de Jésus. Hein? Ben, allez lui dire, les boîtes marchent, les boîtes... C'est pas une réponse. Hein? Puis après, il dit, voilà, les disciples viennent vers lui. Et puis, ouais, il y en a qui disent que tu es ci, que tu es ça. Là. au lieu de profiter pour leur dire, ben vous savez, non, c'est moi, hein, croyez en moi. Hein. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Non, mais c'est nous qui posons les questions. Non, non, c'est moi qui pose les questions. Hein. Pourquoi ? Parce que Jésus n'avait pas envie que ses disciples répètent ce que Jésus avait dit. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Non, non, on s'en fout qu'il l'a dit. Vous, vous dites quoi ? Hein, tous les enseignants savent que c'est le seul moment où la classe est silencieuse, quand on pose des questions. Et vous ? Ben, Jean-Jacques dit que... Non, non, toi. Oui, mais David a dit que... Non, non, toi, qu'est-ce que tu dis que... Hein ? Et je trouve que c'est assez incroyable. Mais en même temps, Jésus pose des questions qui percutent, qui font réfléchir, qui remettent en question, mais jamais pour ridiculiser, pour mettre mal à l'aise, pour enfermer ou pour juger. Hein. Et ça, c'est une des choses qu'on a vu ensemble dans la préparation dernière. C'était qu'en fait, donc, pour nous, ça va se passer sûrement ici, si on n'a pas l'autre endroit, on va manger ensemble, il y aura une courte présentation d'un point qui vient de la parole de Dieu, mais très simple. Et après, il y a des petits groupes, et il y aura une personne qui sera là, et la personne qui sera là, en fait, le but de la formation, c'est de lui apprendre à ne pas répondre aux questions. C'est pour ça que moi, je serai dans aucun de ces groupes-là. Ce n'est pas une blague, je ne peux pas y être. Puisque je suis celui qui parle au début. Hein, c'est interdit, c'est antinomique. Et puis, la personne qui est là, elle n'est pas là pour clouer le bec ou même pour apporter des réponses intelligentes. Elle est là pour que chacun pose ses questions dans un contexte où il a le droit de poser la question la plus saugrenue. Si c'est la sienne, il la pose et il ne va pas être jugé. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce qu'au-delà de ce cours-là, est-ce que c'est... comme ça que je pense quand je communique avec un autre être humain dans mon rôle de témoin. Parce que ça enlève en plus énormément de pression. Parce que souvent, pourquoi on ne témoigne pas ? Ouais, mais et s'il me pose une question sur les croisades, je vais dire quoi ? Et s'il me pose une question sur l'évolution, je ne sais pas répondre. Et s'il me demande une question sur les enfants qui sont violés dans le monde, j'y dirai quoi ? Et sur les guerres et sur... Non, mais je ne suis pas Dieu, moi. S'il y a des questions, qu'il les pose à Dieu. Alors, il y a un moment pour répondre. Hein. Vous connaissez le proverbe, hein, ne réponds pas à l'insensé sa folie. Et le verset suivant dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour répondre. L'apologétique est importante. Mais dans notre rôle de témoin, on n'est pas là pour répondre aux questions. On est là pour dire aux gens, très bonne question. Et si tu l'as posée à Dieu, hein? Ou alors peut-être tu peux trouver la réponse là aussi. Mais ce n'est pas notre rôle. Et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui nous met dans une bonne attitude avec les gens. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont adhérer à ma pensée ou à celle que je propose, puisque justement, le but, c'est qu'ils soient libres. Mais ça place chaque être humain dans la situation que veut Dieu. Parce que si Dieu avait voulu convaincre l'humanité qu'il était Dieu, mais on le sait tous, hein, mais ça lui demandait quel effort ? Aucun. Aucun. Quelle difficulté pour Dieu d'apparaître de façon visible, glorieuse, puissante, autoritaire et de dire à tous les gens qui ne croient pas, regardez, j'existe. En quoi c'est compliqué pour Dieu ? Il n'y a aucune difficulté pour lui. Et il ne fait pas. Pourquoi il ne fait pas ? Ben, y a une raison. La raison, c'est l'amour. Je peux être l'homme le plus puissant, le plus riche du monde, je ne peux pas acheter l'amour, c'est la Bible qui nous le dit. Dans l'amour, il faut qu'il y ait du désir, dans le désir, il faut qu'il y ait de l'envie, et pour qu'il y ait de l'envie, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui s'impose. Alors Dieu a décidé de ne pas s'imposer, et de laisser de la place. En même temps, il a mis ce qu'il fallait pour que chaque être humain qui a le désir de le connaître puisse le connaître. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas d'explication à ça. Mais c'est une réalité. Mais il n'a pas décidé de convaincre les gens. Hein. On connaît cette horrible phrase, je ne sais plus à qui on l'attribue, mais un des soi-disant pères de l'Église là, qui partait évangéliser en Chine et puis qui utilisait le verset « contraint-les d'entrer hein, » et puis les gens devaient se faire baptiser avec un pistolet sous la tempe et puis comme ça les statistiques marchaient assez bien. Quoi, hein. C'est une caricature, mais ça s'est réellement passé dans l'histoire, c'est une horreur. Mais on peut être dans cet état d'esprit-là, et les questions de Jésus amènent autre chose. Alors j'ai noté quelques points, et je termine avec ça rapidement, sur à quoi servent les questions, parce que maintenant j'aimerais qu'on fasse le sur deux tableaux, moi en tant que témoin, c'est vrai, mais aussi les questions que Jésus me pose à moi. Les questions, ça sert déjà à faire le bilan sur ce qu'on sait. Par exemple, je prends dans Luc 10, 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Là aussi, poser cette question à un évangéliste ou à un pasteur, il prêche 45 minutes là derrière. Le plan de Romains en 4 points, tout ce que vous voulez. Quoi. Qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Ah, non, mais c'est moi qui pose des questions. Non, c'est moi qui pose des questions. On apprend, pour tous ceux qui ont de la culture et qui ont vu le film Rabbi Jacob, que quand on pose une question à un juif, il répond par une question. C'est pas faux quand même, parce que Jésus a fait ça souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Ah ben, puisqu'il savait que c'était un docteur de la loi, puisqu'il avait dit. Ben, que dit la loi ? Qu'est-ce que tu sais là-dessus ? Et ça, je trouve, c'est une première chose, je ne vais pas développer chacun de ces points, je vous les laisse comme ça, mais les questions nous permettent de faire le point, parce qu'il y a tellement de questions qu'on pose où on connaît la réponse, mais on voudrait juste entendre autre chose que ce qu'on sait, parce que ça nous arrangerait. Et là, essayer de convaincre quelqu'un qui, de toute façon, ne veut pas parce qu'il veut entendre autre chose que ce qu'il doit entendre, c'est inutile. Mais de le renvoyer à son honnêteté. J'ai le droit d'être malhonnête avec moi-même. Tout à fait. Je le fais souvent. Mais tant qu'il y a une discussion, je peux me justifier. Alors que si on me dit, t'en penses quoi ? Ah. Donc, les questions font ça. Alors, c'est vrai pour nous, puis c'est aussi pour nous quand on communique. Deuxièmement, quand on me pose une question, ben, je peux dire ce que je pense, normalement. Et donc, je suis concerné. Parce que ben, le gars, il explique son truc. On dit que les pasteurs, c'est des gens qui sont payés pour répondre aux questions que personne ne se pose. C'est peut-être pas en plein vrai, mais c'est peut-être pas en plein faux. Alors que quand on pose une question et que la personne répond, ben c'est elle qui dit ce qu'elle pense, quoi. Parce que j'ai vécu ça aussi en Roumanie, habitué à communiquer avec des Français. Habituellement, dans la rue, chaque fois que j'allais communiquer avec des Français, forcément, ils ne croient pas que Dieu existe parce qu'ils sont Français, sauf s'ils sont déjà chrétiens. Et donc, il faut commencer par « Et si Dieu existait ? Est-ce qu'il y avait une intelligence dans l'univers qui pourrait s'appeler Dieu ?» Donc, déjà, il y a 3 heures de discussion pour arriver là, quoi. Puis moi, habitué à faire ça pendant des années, j'arrive en Roumanie et je commence avec ça. Et puis, à la 10e personne roumaine avec qui je parle, je m'aperçois qu'ils se disaient tous « Il est idiot ce gars ou quoi ? Tout le monde sait que Dieu existe. » Parce que culturellement, en Roumanie, tout le monde croit que Dieu existe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants, qu'ils connaissent, mais c'est, voilà, comme, c'est comme si je venais ici et que je dis « Vous savez, il y a des animaux, des cornes comme ça, et puis mangent de l'herbe, font « me », et puis ça fait du lait, vous savez ? » Vous allez vous dire, ouais, en Suisse, on sait ce que c'est les vaches, quoi. Mais il y a des pays où on ne sait pas ce que c'est les vaches. Donc voilà, en posant une question, j'évite de passer du temps à répondre à des questions que les gens ne se posent pas, et puis d'entendre ça. Et puis surtout, les gens peuvent... Ah, il veut savoir ce que je pense. Je participe. C'est plus un cours, c'est un échange. Troisièmement, les questions nous renvoient, et je l'ai un peu dit au début, à nos incohérences, si nous sommes honnêtes. Dans l'histoire, je ne vais pas vous la lire, vous la connaissez, mais où on veut tendre un piège à Jésus avec cette dame prise en soi-disant flagrant délit d'adultère. J'ai toujours soi-disant parce qu'il n'y a pas d'homme. Alors comment on fait pour un flagrant délit d'adultère avec une femme seule ? Je ne sais pas. Mais on veut le piéger et Jésus répond qu'avec des questions. Même s'il n'y a pas un point d'interrogation, quand Jésus, quand ils lui disent ouais, tu fais quoi avec ça ? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est une question, il n'y a pas de point d'interrogation, mais c'est bien une question. Parce qu'en fait, chacun doit se dire « Ah, et moi, j'en suis où avec cette histoire-là » Et en fait, là, et puis le texte nous dit, un par un, commencer par les plus âgés, ils s'en vont, et puis les plus jeunes après. Pas parce que les plus âgés sont plus sages, c'est parce qu'ils ont eu plus de temps pour pécher, donc ça revient plus vite, tout ce qu'ils ont fait. Et ils s'en vont. Et là, que fait Jésus ? Il ne fait pas un discours derrière, il continue avec des questions. Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? C'est de nouveau pas un discours. Et puis, ils ne sont plus là. Ah. Moi non plus, je te condamne. Et puis, il y a l'information qui vient aussi, mais c'est toujours avec ce questionnement-là, parce que c'est une façon de respecter l'autre, de lui dire, tu es là, tu existes, je te vois, et toi, tu as quoi à dire ? Et si des fois, on doit partager la même pensée, alors ça a de la valeur que si tu l'as fait en pleine liberté. Alors pour Jésus, c'est différent parce qu'il est la vérité. Donc lui, il pouvait dire « rejoins-moi ». Mais pour moi, en tant que témoin, je n'ai pas le droit de dire aux gens « rejoins-moi » ou « rejoins mes idées ». Je peux juste dire « la vérité existe, je l'ai aperçue ». Des fois, je la croise. Des fois, j'y trempe un orteil dedans. Ben, je t'encourage à faire pareil. Mais je ne l'ai pas, moi, la vérité. On a beaucoup discuté là-dessus vendredi soir avec, et en rentrant avec Mathieu. Je ne rappelle pas la citation exacte, mais Christian Bobin, en citant dans sa biographie de Saint François d'Assise, à un moment, il dit « Au début, le fou et le saint, on ne peut pas les distinguer. Parce que l'un et l'autre ont vu quelque chose que personne n'a vu. Mais le fou dit « J'ai vu un truc incroyable, suivez-moi. » Et le saint dit « Il y a un truc incroyable, c'est Dieu. » Et voilà, en tant que témoin, avec nos questions, on n'est pas là pour « j'ai trouvé la vérité, suivez-moi, j'ai trouvé la vérité, venez dans mon église, j'ai trouvé la vérité, donnez-moi des sous, non, ça c'est autre chose, j'ai trouvé la vérité, là. » Non, c'est « la vérité existe, on peut la rejoindre, allez-y. » Et par les questions, on va donner à l'autre la possibilité de se poser les bonnes questions pour y aller, pour trouver la direction, mais ce n'est pas notre rôle de les prendre et de les tremper dans la vérité. Ils y vont s'ils veulent. Ensuite, elles permettent aussi des fois de réaliser qu'on connaît la réponse. Quand on pose les bonnes questions, en fait, je sais. C'est juste que je ne voulais pas. Donc, je ne développe pas plus ça. Elles creusent la soif et aiguisent l'appétit de ceux qui veulent savoir. Lorsque Jésus, dans le dernier repas qu'on a, on s'est rappelé ce matin, il lave les pieds de ses disciples. Donc, ce qui était choquant, il fait d'abord un acte étrange et choquant, mais ensuite il pose une question. Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Ses disciples devaient être là comme une poule qui a trouvé un cure-dent. Il fait quoi là ? Et là, il y a un tas d'explications, effectivement, parce qu'il faut aussi cet équilibre-là. Vous m'appelez Seigneur et Maître, vous avez raison. Ben voilà, je suis le plus grand et je vous lave les pieds. Vous voyez ? Vous avez compris ? Alors, toujours avec cette façon. Et ça creuse l'envie de savoir. Donc, apprendre à utiliser les questions pour donner envie. Si les gens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Il y a plein de gens qui n'ont pas écouté. Même Jésus, il y a plein de gens qui se sont détournés. Voilà. Et puis, quand on pose une question à quelqu'un, ou quand Dieu me pose une question, en fait, de pouvoir poser une question ou de ça me permet de voir si je l'ai assimilé pour le reformuler, pour le transmettre à d'autres. Parce qu'on oublie toujours qu'on est responsable de transmettre, pas notre vérité, mais d'être ses témoins. C'est le but. J'ai été un peu surpris, c'était pas la majorité, mais quelques personnes dans le week-end m'ont dit « Ouais, mais ce sujet, ça concerne pas tout le monde. Pourquoi on n'a pas pris un sujet qui concernerait tout le monde ?» Mais être capable de comprendre ce que disent les Écritures pour le transmettre à d'autres, si ça ne concerne pas tous les croyants, ça concerne qui ? Quelques spécialistes qui ont étudié dans une école ? Non, c'est comme si je disais mes enfants, je n'ai pas besoin de leur apprendre, ils apprendront tout seuls. Non, mes enfants savent cuisiner parce qu'ils nous ont vu cuisiner et qu'on leur a appris, ils savent lire parce que... Donc on est tous responsables de transmettre et... En fait, avec des questions, je m'aperçois que si je ne sais pas transmettre, c'est peut-être que je n'ai pas compris. Et justement, en comprenant, je transmets. Jean-Jacques m'a envoyé, je vous en ai déjà parlé, mais une petite vidéo là, d'un monsieur qui est directeur de la Sorbonne, où qu'il était, et qui raconte comment, quand il est parti de l'Afrique du Nord, quand il était enfant, et sa maman aurait aimé faire des études, mais elle ne pouvait pas. Et quand lui, il a commencé l'école primaire, sa maman lui a dit « tu vas faire l'école pour deux, pour toi et pour moi ». Et ce petit garçon commençait son école primaire et tous les soirs, quand il arrivait à la maison, il apprenait à sa maman ce qu'il avait appris dans la journée. Et sa maman, après, a pu passer le bac et lui, il est devenu directeur de la Sorbonne et professeur entre-temps. Et en fait, tous les chrétiens devraient être comme ça. On repart ce matin, on se dit, j'ai retiré quoi de ce moment ensemble et comment je peux le partager avec quelqu'un ? Sinon, ça ne sert à rien. On va passer notre vie, ok, alors je cuisine, je vous prépare un repas, vous venez, vous le mangez, vous dites c'est bon, c'est bien. Ah, aujourd'hui, il était un peu trop salé, aujourd'hui, il était un peu ci, un peu ça. Eh, faites votre repas, faites votre recette, mettez moins de sel, plus de sucre, ce que vous voulez. Mais le but, c'est que chacun puisse transmettre. Hein. Voilà. Et puis, dernière chose avec les questions, c'est le dernier point. Non, l'avant-dernier, il y en a, j'en ai rajouté un. C'est de permettre à l'interlocuteur d'exprimer ce qu'il croit pour y trouver la parcelle de vérité qui pourra amorcer la suite. Gaston Fromel, un théologien suisse du 19e siècle, disait ceci, alors c'était, il écrivait comme à l'époque, hein, « Toute erreur est une citadelle imprenable aux assauts du dehors. Pour la détruire, il faut d'abord y entrer, et l'on n'y entre que par la vérité qu'elle renferme. Puis, une fois parvenus au centre de la place, nous aurons à y rendre notre témoignage. » Personne n'a tout faux sur tout, tout le temps. Personne. En posant des questions, je permets de trouver le point que la personne exprime qui est au milieu de 3 tonnes d'erreurs, il y a un truc qui est vrai, et au lieu de convaincre qu'il y a 3 tonnes d'erreurs, je vais chercher ce point de vérité. En fait, on est d'accord, c'est vrai. Hein, on est d'accord sur 1 millimètre sur 3 tonnes de trucs, mais on a trouvé le millimètre. Et on part de là, et on va construire là-dessus au lieu de détruire. Et les questions servent à ça aussi. Donc ça, c'est très important. Et puis, 8e main, je ne sais pas s'il y en avait 7 avant, mais je dis 8e main, ça me plaît comme ça. Ça fait bien. Ouais, bien. Les questions nous préparent à être participants à l'action qui va suivre. Quand Jésus dit... où c'est que j'y avais ? Attends, qu'est-ce que c'est qu'il dit ? Oui. Hein ? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? C'est une question. Mais c'est une question, d'une certaine façon, nous, on aurait dit, et les gars, il faut me suivre. Non. Et vous, vous ne voulez pas aussi partir ? Parce que, évidemment, que Jésus s'attend à ce qu'ils suivent, enfin, ou aimerait qu'ils suivent, hein, et puis ils vont le suivre, mais pas longtemps, et puis après ils vont revenir. Mais voilà, donc les questions aussi, elles font ça, c'est qu'elles nous mettent face à nos responsabilités, parce que si Jésus dit, allez, si vous voulez, venez, moi, bon, j'ai pas envie. Mais quand on me dit, vous voulez pas partir ? Ah, soit je dis, oui, je pars, mais si je dis, non, je veux rester, ah, mais alors, ça débouche sur un engagement, sur quelque chose à faire, quoi. Hein. Et les questions ont ce pouvoir de nous responsabiliser, sans nous culpabiliser forcément, mais de nous rendre responsables. Tu dis ce que tu veux, mais tu l'as dit. Hein. Voilà. Donc tout simplement, c'est quelques points-là. Je trouve que c'est important pour tous, qu'on participe ou non à ce parcours alpha, ça c'est accessoire. Hein. Parce que je crois que c'est quelque chose qui peut nous aider à évoluer dans notre communication de la foi, notre rôle de témoin, et puis aussi dans notre domaine, hein, quel que ce soit. Et puis en même temps, qu'on puisse prier tous pour demander à Dieu, comment je peux vivre ça, moi ? Que ce soit effectivement en invitant concrètement quelqu'un pour ce parcours, mais aussi de le vivre, je dirais, voilà, quelqu'un qui ne pourra pas venir le soir, mais je l'invite moi l'après-midi, on boit le café, et puis là, dans le café, on discute, et puis à la fin... je vais peut-être lancer un petit sujet très simplement. Là, je fais tous les rôles, mais si c'est tout. Hein. Et puis, je vais poser des questions. Et puis, surtout, je vais créer cet espace où la personne peut parler. Et elle sait qu'elle n'est pas jugée, qu'elle peut exprimer. Et puis, qu'elle ne pense pas comme moi. Puis, elle dit des choses qui ont l'air choquantes ou pas. C'est pas un souci. Elle peut s'exprimer. Quoi. Et ça change de la vision qu'on peut avoir de « il faut convaincre ». Après, la Bible dit aussi qu'il faut savoir répondre avec sagesse à ceux qui ont des questions. Et, hein. Mais c'est surtout dans l'état d'esprit que ça va être différent. Seigneur, on te remercie parce que tu n'es pas venu nous forcer à quoi que ce soit. Tu es venu nous appeler à l'amour et tu es venu nous appeler à te répondre librement, à te suivre sans y être obligé. Et tu as voulu que nous soyons capables d'être indépendants pour choisir de nous lier à toi librement, de nous approcher de toi. Alors aide-nous à assimiler toujours plus cette chose-là, de le vivre pour nous dans notre relation avec toi, de le vivre dans nos relations avec ceux qui nous entourent, de le vivre dans notre vie, dans le corps de Christ, dans notre famille spirituelle et dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous conduis. Merci pour les questions que tu nous poses et qui nous permettent d'avancer toujours un peu plus loin et de mieux te comprendre. Merci pour la curiosité que tu as voulu donner à l'être humain, que nous sachions ne pas l'étouffer et l'utiliser pour progresser avec toi, Seigneur. Merci pour ces moments et pour le plaisir qu'on a à être ensemble, Seigneur, parce que ben voilà, on est autour de toi comme autour d'une table aussi. Et puis, ça nous fait du bien.